La libre antenne d'Europe 1.
Et chose promise, chose due, on commence ce soir avec vous, Olivier. Bonsoir.
Bonsoir, Sabine.
Alors, juste pour résumer, nous avions fait connaissance hier soir à la fin de l'émission.
Oui, absolument.
Et comme on n'avait bien sûr pas eu le temps de se parler, je vous avais promis qu'on reprendrait contact avec vous ce soir. Est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien, pour les auditeurs qui n'étaient pas là, résumer en quelques mots ce que vous m'avez dit hier soir et cette épreuve épouvantable que vous avez traversée?
Bien sûr. Donc, j'ai 59 ans. Ma vie a basculé à 47 ans. J'avais une famille de 3 enfants, une femme, un travail, des responsabilités importantes dans une grande société de médias. Et puis, un jour, on m'a appelé, mon fils aîné de 11 ans s'était suicidé dans l'après-midi en se pendant. Évidemment, sans explication, sans raison apparente, même si plus tard on a supposé beaucoup de choses, même s'il avait parfois des attitudes, de quelqu'un d'un peu dépressif.
Différent peut-être, surtout
pas.
Différent.
Oui. Il faisait beaucoup de crises de somnambulisme, par exemple. Il voyait des ombres la nuit.
Oui, c'est quand vous racontez ça hier, j'avais l'impression que c'était comme si cet enfant était connecté à autre chose.
Exactement. Alors, il faut savoir qu'il a très tôt, dès le CE2, commencé à pleurer pour aller à l'école. Ça ne se passait pas bien du tout. Donc, on a évidemment contacté la maîtresse. Mais bon, malheureusement, les professeurs d'école ne sont pas tous les jours, formés à gérer ce genre d'enfant. Et donc, on a soupçonné immédiatement que Théo avait probablement quelque chose de plus ou de moins, je ne sais pas, qu'il mettait dans cette situation.
On va appeler ça sa différence.
Ouais. La différence. On l'a fait voir à un pédopsychiatre avec qui il a discuté très longtemps, qui lui a fait son QI, il avait à peu près 130, donc un QI assez important. Et le pédopsychiatre, il faut absolument le sortir de l'école parce qu'il va tomber en échec. Là, il est malheureux. Et en plus, les instituteurs ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont autre chose à faire que de s'en occuper. Donc, il faut le mettre dans une école spécialisée ou dans une classe spécialisée, ce qu'on a fait. Et donc, voilà. Et ça a commencé par ça, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à avoir ce côté joyeux très social, très sociable, avec beaucoup de copains, copines, voilà. Mais il a continué à faire ces espèces de crises de somnambulisme. Le médecin traitant nous a dit « c'est pas grave, vous savez, ça arrive pour les pré-ados, faut pas vous inquiéter, ça va passer ». Et puis, visiblement, ces crises cachaient autre chose que l'on n'a absolument pas décelé. Et naturellement, quand j'apprends ça, quand ma femme apprend ça et découvre ça, parce qu'elle était dans la maison le jour où elle le découvre, on se sent coupable de ne pas l'avoir protégée, de ne pas l'avoir compris, de ne pas avoir vu arriver cette chose.
Oui, c'est ce que disent tous les proches de quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Cette culpabilité est presque aussi douloureuse que la perte.
Oui. Et les pédopsychiatres qu'on a vus par la suite nous disent aussi que les enfants de cet âge-là qui passent à l'acte, très souvent n'ont pas... Et pour qui, par chance, ils en survivent, n'ont pas la conscience qu'ils vont peut-être mourir. C'est comme une action... de au secours, de je suis pas content, de quelque chose de révolution, de bataille contre le moment, l'environnement.
Donc vous croyez ça qu'un enfant qui se pend pense qu'il va pas mourir?
C'est ce que m'ont dit certains médecins. Ils pensent, ils ont pas conscience vraiment du risque qu'ils prennent en faisant ce qu'ils font. Bon. Enfin, toujours est-il que la culpabilité, voilà, était là et restée. Moi, je me suis fait traiter par multiples dépressions et par un professeur psychiatre, psychothérapeute spécialisé dans les deuils difficiles pour essayer de surmonter ma dépression. Ma femme, elle, s'est fait aider également, mais a eu plus de capacité à faire face à cette dépression et à ce drame.
Vous me disiez hier qu'elle a les ressources en elle pour se lancer dans des projets et faire beaucoup
voilà,
de choses.
Elle était partie dans des projets, donc quelque part, ça l'a aidé aussi à ne pas ressasser les choses. C'est ce que me disent souvent mes proches, arrête de toujours revenir en arrière et de ressasser les choses.
Ouais, c'est facile de donner des conseils dans ces cas-là.
Je sais, mais bon. Et donc, de fil en aiguille, suite à ces différentes sessions de psychothérapie qui m'ont beaucoup aidé, j'ai quitté mon job parce que j'étais plus capable de prendre la responsabilité que j'avais. J'ai fait complètement autre chose pour essayer de changer d'air. J'ai pris une petite brasserie, c'était un rêve, voilà. Je l'ai faite fonctionner ou plutôt refonctionner, puis je suis reparti dans du visuel. Et puis, là, c'est là qu'on se dit que la vie s'acharde. J'ai écouté la citation que vous donniez juste en début d'émission. Les leçons que donne la vie nous apprennent à grandir. Et c'est pas la vie qui s'acharne. C'est l'année dernière, à Pâques, mes deux autres enfants, ont eu un très grave accident de voiture dans des conditions dramatiques. Mmh. Mon fils était gravement blessé. Il a malheureusement perdu la vue d'un œil, mais il s'en est sorti vivant, sans séquelles importantes intellectuelles.
Vous me disiez que ça aurait pu être bien, bien plus dramatique.
Bien pire, parce que c'était un traumatisme crânien ouvert. Donc il a été amené à l'hôpital en toute urgence.
Et l'autre n'a rien eu?
Ma fille a eu des vertèbres fracturées, mais bon, ça s'est résorbé.
Pas de séquelles, quoi.
Et donc, les séquelles n'ont pas... Il n'y avait pas de séquelles. Voilà. Et donc, c'était à la fois, encore une fois, je dirais, une situation de drame.
De traumatisme,
oui. De traumatisme. Avec en plus le fait que, et ça paraît-il, c'est, semble-t-il, une situation assez courante, ce genre de choses, soit ça renforce les couples, soit ça les désagrège. Malheureusement, nous, ça a été plutôt la deuxième cas, c'est-à-dire qu'on est mariés mais séparés maintenant. Ah. Donc je me suis retrouvé seul à mâchonner tous ces problèmes, retrouver du travail, puisque il se trouve que ma dernière mission s'est arrêtée quelques jours avant l'accident. Et donc, je suis tombé dans une phase alcoolique qui était déjà arrivée à plusieurs reprises et que j'avais soignée par des cures. Et je me fais toujours suivre par un psychiatre addictologue. Et donc là, je suis encore en soins, mais c'est la chose commence à être derrière moi. Et tout mon problème aujourd'hui, parce que je m'en rends compte pour avoir fait plusieurs cures qui fonctionnent très bien, hein, les cures marchent bien, c'est l'après-cure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait après, comment on le gère, et surtout, il faut repartir sur autre chose. Et changer beaucoup de choses pour arrêter toujours de rentrer de nouveau dans ce cycle sans fin.
Oui, bien sûr. Voilà. Et ce qu'on avait commencé à dire hier, c'est que l'alcool est une conséquence, pas une cause.
Oui.
Et bien sûr, vous l'avez compris, la cause, elle est évidente. Et vous savez, je pense, en tout cas dans ma carte du monde à moi, je pense que la perte d'un enfant et dans ces conditions, c'est probablement l'épreuve la plus douloureuse à vivre pour un parent. Donc vous êtes tombé dans une sorte d'enfer et il faut du temps pour sortir de cet enfer-là, déjà.
Oui.
Ensuite, le deuil, c'est une réaction à un vide. Et souvent, la réponse plus ou moins consciente qu'on a pour remplir ce vide, c'est l'alcool.
Oui.
Parce que ce vide, il n'est pas il n'est pas normal, il n'est pas acceptable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'existe aucun nom pour désigner un parent qui a perdu son enfant. Un enfant est orphelin, une femme est veuve, un homme est veuf. Il n'y a pas de mot pour désigner un papa ou une maman qui a perdu son enfant.
Ouais.
Tellement c'est même pas envisageable.
Voilà, c'est pas envisageable.
Ouais. On peut pas. C'est pas dans le cours des choses et surtout dans des conditions pareilles, parce que comme vous dites, il y a le chagrin incommensurable et il y a en plus cette notion de je n'ai pas pu le garder. Donc il y a cette culpabilité qui ronge.
Oui.
Et ce vide énorme. D'une manière ou d'une autre, on peut avoir ce sentiment qu'il faut le combler. Alors, certaines personnes vont manger énormément jusqu'à prendre 20, 30, 50 kilos.
Oui.
D'autres vont essayer de remplir ce vide avec de l'alcool, mais vous êtes bien conscient que ce vide, c'est un trou, c'est un puits sans fond.
Oui.
Et que ce n'est pas comme ça que ça peut se réparer. Maintenant, ce qu'on a commencé à se dire hier aussi, c'est qu'évidemment, et vous le faites très bien, il faut prendre ça sur le plan médical. Vous êtes suivi par un addictologue ou par un spécialiste, en tout cas, de l'alcoolisme.
Oui.
Alcoologue, hein, je crois que ça se dit aussi.
Addictologue, parce qu'il ne fait pas que l'alcool.
Peu importe, en tout cas, quelqu'un. C'est très important de vous occuper de la conséquence, parce qu'il ne faut pas vous détruire avec ça. Mais il me semble très important de travailler sur la cause, et bien sûr, c'est ce deuil-là.
Oui.
Et vous savez qu'il existe des groupes, je ne sais pas si vous avez été mis en relation à l'époque, avec des associations, par exemple, il y en a une qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante.
J'en ai entendu parler.
C'est une association qui réunit toutes les familles confrontées au suicide d'un enfant. Parce que je pense sincèrement du fond du cœur que quand on a vécu une épreuve comme ça, il n'y a que les gens qui ont vécu la même chose qui peuvent vraiment vous comprendre. Les autres peuvent compatir, vous écouter, mais vraiment vous comprendre, il me semble qu'il n'y a que les gens qui ont vécu ça. Et je vous invite vraiment à rentrer en contact avec eux si vous voulez noter leur site, parce qu'il n'est pas évident à trouver. Leur site, c'est les initiales A-N, A comme Anatole, oui. N comme Nathalie,
oui.
JPV, alors ça c'est les initiales de Jonathan Pierre Vivant, donc ça donne anjpv.org.
D'accord.
Et ils organisent beaucoup de groupes de parole.
D'accord.
Avec les parents d'enfants suicidés, comme ça, des gens qui ont vécu la même chose que vous. Différentes manières, mais le résultat était le même. Et il y a aussi l'association Phare comme un phare, qui elle aussi organise des groupes de parole. Pour ces familles, toutes ces familles qui sont confrontées au suicide d'un enfant. Et puis, il y a un livre aussi que je voulais... C'est pas un livre, pardon, c'est un documentaire qui est passé à l'époque sur France 5. Peut-être l'avez-vous vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est disponible maintenant en replay. C'est un documentaire d'une femme qui s'appelle Katia Chapoutier, qui s'appelle « La vie après le suicide d'un proche ».
Katia Chapoutier.
Chapoutier. Comme ça se prononce. C'était sur France 5 il y a quelques années. Et il est disponible maintenant.
D'accord.
La vie après le suicide d'un proche. Parce que je pense vraiment que c'est un chemin important à faire pour vous, pour aller boucher ce trou sans fin. Parce qu'arrêter de le remplir avec de l'alcool, c'est une chose. Mais si vous avez toujours ce sentiment de gouffre incommensurable, il y aura autre chose qui va arriver. Ça sera compliqué. Et vous êtes tombé je pense sincèrement que c'est une épreuve qui est l'une des plus difficiles au monde. Et que c'est... Le chemin est long, mais il y a un bout quelque part. Tout dépend après, quelles sont vos croyances? Est-ce que vous pensez, vous, que tout s'arrête net? Ou pas?
Est-ce que je pense, comment vous dites?
Que tout s'arrête net quand on meurt ou pas? Parce que c'est très important aussi dans le chemin de reconstruction que l'on prend derrière. La manière dont on vit la mort et le deuil.
J'ai pas de croyance affirmée là-dessus. Je dis pas non, je dis pas oui.
C'est entre les deux. Mais vous savez, ce que je dis souvent, c'est que finalement, quelles que soient nos croyances, si on croit qu'il n'y a rien, que tout s'arrête, et bien la personne qui est partie, ben voilà, elle est partie. C'est fini. Et si on croit que ça continue et qu'il y a une évolution autre derrière, la personne forcément va mieux. Donc dans les deux cas, il n'y a plus de souffrance pour elle.
Oui.
La souffrance qui reste, elle est évidemment pour nous.
Oui.
Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut nous soigner nous-mêmes dans ces cas-là.
Oui. OK.
Et le maître mot pour moi, c'est l'amour. Arriver à retrouver l'amour de soi.
Oui.
Il faut beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour colmater toutes ces blessures-là.
Oui, c'est, c'est un peu ça le problème, effectivement, aussi. C'est retrouver une certaine confiance en soi. Et
ça passe par là aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez mis des choses en place, je ne sais pas, des petits rituels, une façon d'écrire, comme vous êtes dans l'audiovisuel, est-ce que par exemple vous auriez pu envisager de créer une sorte de documentaire sur votre fils ou un film, ou même pour que ça soit pour vous, pour le rendre un jour public, est-ce que vous avez eu cette idée-là par exemple?
Oui, déjà, oui. J'ai déjà écrit pas mal de choses.
Oui.
J'y ai pensé. C'est dur de le faire seul, en fait. Je voudrais trouver un axe qui soit pas trop, enfin pas mièvre, quoi, sur le sujet.
Vous voulez pas tomber dans le pathos?
Voilà. J'ai souvent je me dis c'est un accident ou on a supposé beaucoup de choses, comme un début de schizophrénie, comme tout un tas de situations psychologiques difficiles, différentes, qui se mettaient en place et qui le faisaient comme ça avoir ces moments d'absence, parce qu'il a eu des moments assez étrange d'absence complète où il était persuadé de faire manger son petit nounours et il tenait à nous l'expliquer. Donc des moments où il déconnectait complètement. Il était complètement déconnecté
dans son,
de la réalité.
Dans son monde intérieur.
Dans son monde intérieur. Et puis le lendemain, c'était fini. Il était reparti.
Oui, mais j'ai l'impression, il semblerait quand même que son monde intérieur ait été beaucoup plus puissant que le monde extérieur pour lui.
Oui.
Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé du tout, c'est la réaction de ses frères et sœurs à ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça, eux?
Ils ont été traumatisés, bien évidemment.
Ils avaient quel âge à l'époque, rappelez-moi?
Alors, ma fille avait 8 et mon dernier avait 6.
Oui, tout petit.
Donc tout petit, on les a bien évidemment fait suivre par des psychos, des pédopsychiatres, très très vite pour qu'ils puissent exprimer et faire sortir tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui existe, qui est atténué, mais qui existe au fond d'eux-mêmes. Disons qu'ils attendent de moi, de leurs parents et de moi, entre autres, la force de remonter la pente et de ne pas être comme ça, un peu désespéré, dans un état, détresse, d'autodestruction.
Mais est-ce que c'est une interprétation de votre part ou est-ce qu'ils l'ont verbalisé, ça?
De cette manière, non, ils ne l'ont pas vraiment verbalisé. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils expriment leur colère contre moi à chaque fois que je fais une crise, et en disant « Mais papa, t'as 60 ans, comment ça se fait que voilà, t'es pas capable de maîtriser la situation, etc. Enfin, voilà.
Ce sont des jeunes gens qui ont quel âge aujourd'hui?
18 et 20 ans.
Oui, ils sont encore un peu jeunes pour comprendre tout ça. Et comprendre que votre âge n'a rien à voir là-dedans. Et que vous faites de votre mieux aussi.
Oui, enfin, j'espère. C'est un peu la difficulté aussi. Parce que j'essaye de faire ce qu'il faut pour en sortir et leur montrer que je veux en sortir. D'abord pour eux, parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont encore besoin de moi. Et je ne peux pas les laisser tomber.
Bien sûr. Mais vous savez, au-delà de ça, moi je dirais d'abord pour eux, bien sûr, mais aussi pour Théo. Parce que quelles que soient vos croyances, le fait qu'il ne soit plus là peut aussi vous autoriser à vivre pour deux. À vivre encore mieux, encore plus fort.
Oui.
Pour lui.
Oui.
Ça peut être aussi ça, donner un sens à ce qui s'est passé.
Oui. Oui. Il arrive souvent de m'échapper dans ces pensées-là, justement, de l'imaginer quelque part, pas loin, d'avoir pris la forme d'un oiseau, enfin, tout un tas de choses imaginaires, pour le rematérialiser comme un être vivant, présent. J'ai eu pendant très longtemps un petit oiseau qui avait peur de rien et rentrait dans la maison, en sortait, s'approchait de moi très près. Et je me suis dit, mais attends, c'est peut-être lui, finalement.
J'ai vu une série, il n'y a pas longtemps, dont j'ai oublié le nom, c'était l'inverse. C'était un petit garçon qui avait perdu son papa,
oui,
et qui était persuadé que c'était le petit oiseau qui revenait le voir tous les soirs, et il lui parlait tous les soirs. C'était très beau.
D'accord. Donc oui, c'est vrai que je suis souvent, j'utilise souvent mon imagination ou les situations un peu spéciales pour matérialiser Théo et essayer de retrouver, de le retrouver d'une certaine manière, quoi. Comme étant là.
Mais vous savez, même s'il n'est plus là, je ne sais plus quel poète disait, les morts ne sont pas des disparus, ce sont des invisibles. Il y a une chose qui est forcément, oui, toujours là, c'est l'amour qu'il y a entre vous. Ça, oui, ça ne disparaît pas quand la personne disparaît.
Oui.
C'est impossible. Mmh. On ne peut pas tuer l'amour.
Oui.
Donc il est quelque part. Et c'est là-dedans, ouais, c'est là-dedans que vous pourriez puiser pour récupérer de la force et vivre deux fois plus.
Ouais.
Pour lui.
Ouais.
Et ensuite, pour vous, pour vos enfants, bien sûr, mais d'abord pour lui.
Ouais.
Commencez par vous pardonner à vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous aimez vous-même, d'abord.
Mm-hmm.
Pour apaiser, ouais, apaiser tout ça et pouvoir avancer.
Le pardon est le plus compliqué, oui.
Eh oui, souvent. Et oui, tant qu'on ne pardonne pas, on persiste à se faire du mal tous les jours.
Oui.
Et une fois de plus, si c'était l'inverse, si c'était vous qui étiez parti et lui là, comment aimeriez-vous qu'il soit dans sa vie de tous les jours? Malheureux?
Non, bien sûr que non.
Et voilà.
Bien sûr que non. Non, je ne souhaiterais absolument pas ça.
Et donc, dites-vous que lui non plus ne souhaiterait pas ça pour vous. Et qu'il y a une étape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour sortir de l'enfer, ouais, c'est long.
Mm-hmm.
Mais il y a un chemin.
Ouais.
Et okay, peut-être qu'il vous a fallu vous passer par l'alcool pour comprendre des choses, pour anesthésier en tout cas des émotions, parce que c'est souvent ça l'alcool.
Oui.
Ça sert à un moment donné à anesthésier quelque chose, mais l'anesthésier, une fois que vous le disiez très bien vous-même, quand ça se réveille, quand l'effet est passé, ça se réveille quelquefois encore plus violemment.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc à un moment donné, mieux vaut peut-être arrêter d'anesthésier, affronter l'émotion et apprendre à l'apprivoiser, la transformer, oui, en amour et en énergie.
Oui.
Et pourquoi ce... Quelle était votre idée de projet quand vous m'aviez dit tout à l'heure j'ai commencé à écrire des choses, une écriture pour en faire quelque chose de visuel ou simplement une écriture d'un livre d'un cahier.
Ouais, c'était plus l'écriture d'une histoire. L'histoire d'un petit garçon à qui il arrive tout ce qu'il arrive et dans un contexte un petit peu romancé, quoi, pour essayer de donner une dimension pas pathos, mais
plutôt philosophique, constructive.
Voilà.
Est-ce que justement, je me permettais dans l'intro de parler de Laurent Gounelle, est-ce que vous le connaissez?
Je le connais de nom, mais je n'ai jamais rien lu de lui.
Ben, si ça vous tente cet été, je vous invite à découvrir ces livres.
Ouais.
Parce que c'est un peu ça aussi, ce sont des histoires, mais qui ont toujours un but. Et je pense qu'en plus, votre expérience et votre histoire pourraient parler à plein de parents, peut-être.
Ouais.
Parce que je suis persuadée, évidemment, que beaucoup de parents qui ont vécu ce genre de choses se retrouvent dans votre récit.
Oui, j'imagine.
Et non seulement ça pourrait vous faire du bien à vous, mais ça pourrait faire du bien à d'autres.
Ouais.
Et vous avez les compétences intellectuelles pour écrire quelque chose de bien, de beau. Donc ce sera...
Oui, j'ai souvent pensé... J'ai commencé déjà à écrire pas mal de pages. Une histoire.
Oui.
C'est difficile de pas non plus faire je sais pas, une sorte de livre de je me plains de ma vie, la vie est injuste, pourquoi moi pas les autres, etc.
J'ai pas l'impression que ce soit l'état d'esprit dans lequel vous soyez pour écrire ça, puisque vous me disiez déjà de le romancer un petit peu.
Oui,
c'est-à-dire déjà faire un pas de côté pour l'écrire différemment.
Oui.
Parce qu'un témoignage n'est pas forcément une plainte.
Oui. Mmh. Ok.
Ce que je vous propose, Olivier, c'est qu'on marque une pause, parce que j'ai encore une petite chose à vous dire après les informations, si vous voulez bien m'attendre.
D'accord, je vous attends.
Merci, okay. On marque une pause et je vous récupère dans quelques minutes.
La libre antenne d'Europe 1.
Olivier, êtes-vous là ?
Oui, toujours.
Merci. Oui, je voulais vous proposer quelque chose. Par exemple, vous savez, quand il y a des moments où vous avez l'impression que le plancher s'ouvre sous vous, ce qui doit arriver quelquefois, peut-être que, au lieu de vous remplir un verre, à ce moment-là, vous pourriez simplement vous dire, voilà, je m'accorde un temps, 10 minutes, une demi-heure, 2 heures, si j'en ai besoin, pour aller mal. Pendant ce temps donné, vous pouvez regarder des photos, pleurer tout ce qu'il y a à pleurer. Vous autorisez à aller vraiment mal. Et puis ensuite, vous dire, voilà, stop, reprendre les rênes et vous dire, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et peut-être pouvez-vous aussi, à ce moment-là, choisir chaque jour un disque, une chanson qui illustre l'humeur dans laquelle vous êtes. Simplement ça. Et commencer à partir de là à être dans une construction, peut-être dans l'écriture, dans ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider un petit peu, ça ?
Oui, il faut... Oui. Pourquoi pas, j'ai jamais pensé, j'ai jamais fait l'essai de ce genre de choses. Pourquoi pas, oui.
C'est une manière de reprendre un peu les rênes, c'est-à-dire de dire, ok, je m'autorise un temps donné où ça ne va pas, chaque jour. Peut-être que ce temps va réduire, se raccourcir au fil du temps, et vraiment plonger dans son chagrin à fond, s'autoriser ça. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et on se dit, voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Et là, il est peut-être temps de se mettre dans un autre état d'esprit pour être effectivement dans ce travail d'écriture dont vous parliez.
Ouais.
Ou autre chose, ça après c'est personnel à chacun, mais là, on parle de vous.
Oui. Hein.
Et puis ces groupes de paroles dont on parlait, parce qu'une fois de plus, je reste persuadée que échanger avec des gens qui ont vécu vraiment la même chose, ça permet aussi de se soutenir beaucoup. Même si on a l'impression qu'au début, que non, beaucoup de gens sont comme ça. Soit ils n'y vont pas, soit ils y vont en n'ouvrant pas la bouche au départ. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres dans ces moments-là.
Ouais.
On a besoin d'humanité.
Ouais.
Et les proches ne peuvent en aucun cas apporter ça, parce qu'ils sont impliqués émotionnellement, vos proches.
Bien sûr.
Donc c'est extrêmement compliqué, même s'ils ne disent rien de particulier. Il y a toujours une impression qu'ils pensent quelque chose ou qu'ils vont être sur un jugement ou sur une maladresse ou quelque chose comme ça, alors que dans un groupe de parole, ce n'est pas le cas.
Oui. Ok. Ah. Je vais essayer les groupes de parole. Je n'ai jamais essayé. J'ai fait les alcooliques anonymes, mais pas ça. Les groupes de parole de parents plongés dans la même dramaturgie.
Ben oui, parce qu'une fois de plus, c'est normal, vous êtes occupé de la conséquence et moins de la cause.
Oui.
Mais là, c'est important, il y a quelque chose qui n'est pas terminé encore là.
Oui.
Il y a Marie qui nous envoie un petit message en disant « Bonsoir, est-ce que vous pourriez donner mon téléphone à Olivier ? Je voudrais lui parler. » Donc, si vous le permettez, on va vous mettre, enfin, on va vous donner à vous son numéro.
Oui.
Et après, c'est, ça vous appartient, hein, si vous avez envie d'entrer en contact avec elle. Je ne sais pas pour quelle raison elle souhaite vous parler. Peut-être a-t-elle vécu une situation similaire.
Peut-être.
En tout cas, vous serez libre d'entrer en contact avec elle si ça vous dit.
Ok, d'accord. C'est gentil. Merci.
Merci à vous, Olivier, d'être venu nous ouvrir votre cœur comme ça.
Je vous en prie, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Ça fait toujours beaucoup de bien d'en parler. Et puis d'avoir toujours un point de vue différent. J'ai vu tellement de psy, de gens qui m'ont donné, voilà, chacun un point de vue, un axe. À chaque fois, ça me permet de construire aussi le sujet différemment en partageant, quoi. En partageant comme on l'a fait ce soir.
Si vous le permettez, j'aimerais avoir une pensée lumineuse pour Théo.
D'accord.
Et pour vous aussi.
Ok.
Je vous embrasse, Olivier.
Je vous remercie beaucoup. Moi aussi, je vous embrasse.
Au
bonne émission, bonne soirée.
Merci, au revoir.